Alors ce matin, j'ai comme support un extrait d'Apocalypse chapitre 2, verset 9, qui nous parle encore une fois d'église de Smyrne. Ça va, m'entendez au fond? Pas assez fort, d'accord. Et c'est rare que mes messages se construisent comme ça, mais il y a le texte d'Apocalypse 2, il y a un autre message sur Josué chapitre 1 qu'on verra tout à l'heure, qui a été souvent répété durant la conférence, qui est lié un peu à ce que je veux vous dire ce matin. J'ai écouté un autre message de Pasteur Stevens par cassette et qui alimente ma réflexion, d'autres choses que Dieu m'a montré directement. Donc c'est un peu un puzzle, ce message, mais en même temps, je crois qu'il y a une unité autour de ça et Dieu m'a vraiment fortement parlé. Donc Apocalypse chapitre 2, c'est le verset 9 qui m'intéresse ici. Rappelez-vous, l'église de Smyrne, c'est une église à laquelle Jésus ne fait aucun reproche. Elle n'a que des satisfecit, c'est-à-dire encouragés. Et Jésus dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est un peu particulier quand même comme phrase, comme réflexion. Imaginons que je vienne vers vous et que je vous dise « Je connais ta maladie, je sais que tu es malade, mais en même temps, tu es en bonne santé. Je connais ta pauvreté, mais tu es riche. Tu es très moche, mais tu es beau ou belle. » Vous voyez, c'est contradictoire. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles à vivre pour le chrétien, et c'est une des choses qui amène très souvent les chrétiens à abandonner la foi. Non pas de plus croire en Jésus-Christ, mais d'abandonner la marche avec Dieu. C'est cette contradiction que nous sommes obligés de vivre parfois, entre la joie et le malheur, et d'accepter de vouloir vivre les deux en même temps. Très souvent, on a tendance à faire un choix, et très souvent à cause des émotions et de notre égoïsme, de la chair, etc., quand il y a une chose qui ne va pas, on ne regarde que ce qui ne va pas. Et donc, du coup, tout le reste ne va pas. C'est pour ça que dans la Bible, quand le psalmiste dit « comptez vos bénédictions », il ne dit pas « comptez vos malédictions ». Parce que, naturellement, on y pense à nos malédictions. On pense à ce qui ne va pas. C'est naturel. Mais par contre, il nous dit « comptez vos bénédictions ». Parce qu'en général, quand on n'est pas assez reconnaissant, c'est un ordre. C'est pour ça que quand Paul, par ailleurs, en Éphésiens, dit « Soyez remplis de l'esprit et ne vous enivrez pas de vin », c'est qu'on est plus enclin à boire du vin qu'à être rempli d'esprit. Donc, c'est, d'une autre manière, on peut dire « ne, vous savez, il ne faut pas être dans la chair, ça on a besoin de l'entendre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel ». Donc, il est important de discipliner ses pensées, de marcher par la foi et d'accepter le fait qu'on puisse vivre une chose et son contraire en même temps. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que le monde ne comprend pas. On ne comprend pas qu'un chrétien, par exemple, alors qu'il vient perdre un être cher, mais cet être cher est un frère ou une sœur, ce chrétien est triste de la perte de cette personne, et en même temps, il a la joie de savoir que cette personne est dans la présence du Seigneur. Donc il y a une contradiction. Est-ce que je ne suis pas trop triste? Mais en même temps, d'un autre côté, est-ce que je ne suis pas trop joyeux et un peu indifférent sur ce qui est en train de se passer? On ne sait pas trop où se placer, des fois. Mais, et des fois, on ne veut pas se placer. On veut faire un choix qui est souvent le choix négatif. Donc, parfois, le chrétien va vivre la tristesse et la joie. Il va vivre la pauvreté et la richesse. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même pauvreté, ce n'est pas le même sujet. C'est que là, cette église était pauvre en moyens, apparemment. Les individus étaient peut-être pauvres eux-mêmes, mais la richesse dont Jésus parle, c'est la richesse qu'ils avaient en Christ, c'est-à-dire l'espérance du salut, etc., etc., et la piété qui engendre des récompenses. Ça, c'est intéressant aussi. Je prends un exemple. Imaginez qu'on travaille, on vous fasse une proposition, mais qui engendre des compromis. Avec la vérité, ou avec la piété, la morale, ou autre. Vous allez refuser cette proposition, donc vous vous appauvrissez d'une certaine manière, vous êtes perdant dans l'histoire. Oui, mais vous avez des récompenses au ciel. Vous vous enrichissez. Inversement, si on cherche à s'enrichir ici-bas, même en faisant des compromis, on s'appauvrit là-haut. On aura moins de récompenses. Vous voyez, donc, on est à la fois ici et à la fois dans un autre royaume. Donc, ce qui fonctionne dans un royaume ne fonctionne pas dans l'autre. Ce qui fait que si j'accepte les règles de ce monde, ben, je vais rejeter les règles du royaume de Dieu, ou inversement. Mais parfois, c'est compatible. Parfois, c'est compatible. Mais parfois, ça n'est pas. On est obligé de faire des choix. Donc, il y a une tristesse et une joie. La tristesse de ne pas faire ce que notre chair désire, mais la joie de faire ce que l'esprit en nous désire. Et donc, la chair s'attriste, mais l'esprit se réjouit. Inversement, si je veux satisfaire ma chair, l'esprit va être attristé. Donc, des fois, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Encore une fois, parfois, oui. J'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de changer d'air. Ça, je dis pas que c'est la chair, ça, mais disons que c'est la vie naturelle. Et puis en même temps, on va faire un camp d'été au mois d'août, on va écouter la parole de Dieu. Ah, ça coïncide avec mes vacances, donc à la fois j'ai mon bonheur personnel naturel, et en même temps il va y avoir des choses spirituelles. Parfois c'est compatible. J'ai un ami que naturellement j'aime bien, j'aurais pas été chrétien, j'aurais bien apprécié aussi, on s'entend bien sur plein de choses, et en plus de ça il est spirituel, donc je suis gagnant des deux côtés. Mais parfois, il va falloir faire des choix. Pourquoi ? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc parfois, de se passer d'une compagnie qui nous plaît va nous attrister, mais en même temps, on est obligé de le faire parce que ça fait plaisir au Seigneur. Et c'est cette contradiction, souvent, on n'accepte pas. On aimerait que tout soit évident, synchronisé, facile. Il y a aussi un verset qui est intéressant. C'est dans Romains 4, 18, l'apôtre Paul parle d'Abraham. Vous savez, du fait qu'il a cru dans la parole et dans la promesse, et le fait qu'il allait avoir un enfant alors qu'il avait un corps usé. Et donc, l'apôtre Paul dit « espérant contre toute espérance ». C'est bizarre ça. Comment espérer contre toute espérance ? Contre toute espérance, c'est la partie naturelle. C'est-à-dire, j'essaie de trouver une espérance quelque part dans ma vie naturelle, et il n'y a plus d'espérance. Il n'y en a pas. Je sais que le mot existe, mais il y en a. Là, il n'y a rien. Mais dans ma partie spirituelle, j'espère. Donc j'espère contre toute espérance. Parce que l'espérance naturelle, il n'y en a pas, mais j'espère quand même. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, logiquement, raisonnablement, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils n'en avaient jamais eu, que ce soit lui ou son épouse, alors qu'ils étaient jeunes. Qu'ils auraient pu en avoir, enfin, ils avaient l'âge d'en avoir, mais donc, en fait, pour le dire simplement, c'était un couple stérile. Et en couple stérile, donc déjà à 40 ans, même si à 40 ans on peut être père ou mère, mais ils auraient pu dire à Dieu, mais attends, ça fait 20 ans qu'on est mariés, ou peut-être plus, et on n'a toujours pas d'enfants, on est un couple stérile, ça n'arrivera pas. Mais là, en plus, ils sont vieux, donc ils ont l'expérience de la stérilité pendant toute leur vie, et à la fin, quand ils sont vraiment vieux, ou même ceux qui ont eu des enfants avant ne peuvent plus en avoir à cet âge-là, Dieu dit, t'en as jamais eu, tu peux plus en avoir normalement aujourd'hui, ben toi t'en auras quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, s'il regardait à lui-même, il pouvait se dire, c'est n'importe quoi, et en même temps, il a saisi par la foi. Mais est-ce qu'il a, dans son être intérieur, par naturel, est-ce qu'il a pu douter? Moi, je pense que oui. Et c'était pas un péché. La chair va toujours dire, Dieu est fou. La chair est opposée aux choses de l'esprit. Mais par la foi, Abraham a cru, et c'est cette espérance-là que Dieu a récompensé. Mais dans sa vieille nature, dans sa nature pécheresse, dans sa vie naturelle, il n'y croyait pas, bien entendu. Et nous, c'est un peu la même chose. Des fois, on va marcher par la foi, et en même temps, on va dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, elle est toujours là dans ma vie naturelle. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, je dois y croire. Mais aide-moi. Parce qu'il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Et on voit que Abraham a été fortifié spirituellement en croyant à la promesse, mais il a été fortifié aussi en obéissant à la promesse physiquement, c'est-à-dire que Dieu a permis qu'Abraham ait des enfants. Donc il a été fortifié spirituellement, mais physiquement aussi. Ce qui était impossible a été rendu possible. Et donc ça, c'est un point important, c'est que on va pouvoir vivre cette espérance contre toute espérance que si nous obéissons par la foi, pas si nous ressentons la foi. Il s'agit d'obéir à la foi. Vous savez, c'est un peu comme si vous devez vous faire opérer, qui aime se faire opérer? Levez la main. Moi, je dois me faire opérer l'hôpital. Merci docteur. Super, j'aime beaucoup. J'ai jamais rencontré des gens qui étaient contents de se faire opérer. Pourtant, on sait que médicalement, c'est assez au point, c'est une opération bénigne, etc. Mais on n'a quand même pas envie. Alors, à l'hôpital, il y a une odeur qui qu'on n'aime pas trop, on va se faire piquer, on va s'endormir, on va se réveiller, on aura peut-être des nausées, on va peut-être souffrir un peu. On n'a pas envie. Mais on le fait quand même. Parce que notre être intérieur n'a pas envie de se faire opérer, mais si on l'écoutait, on mourrait. Donc qu'est-ce que l'on fait? On écoute une autre voix, plus intelligente, qui n'est pas la nôtre en fait, qui n'est pas notre ressenti, c'est objectif, et on dit j'y vais par la foi. Alors c'est pas la foi en Dieu, enfin, en tant que chrétien on y va, on est en confiance en Dieu, mais même le non-croyant il y va. Il y va parce qu'il a confiance en son médecin, il a confiance dans le chirurgien, il a confiance, il va pas dire au chirurgien, attends, moi je veux surveiller, ne m'endormez pas, hein, je dois regarder. Non, on lui fait confiance, donc il part. Et notre vie est plus entre nos mains. Et c'est notre conscience raisonnable qui nous amène à aller contre notre première envie. La vie spirituelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les idées de la chair qui s'opposeront aux choses de l'esprit. Il faut accepter ce combat. Et ce combat-là, c'est pas synonyme de désobéissance. La question, c'est à qui j'obéis. C'est pas d'avoir envie. Vous savez, est-ce que le mot tentation apparaît dans la Bible? Oui. Est-ce que Jésus a été tenté? Oui. La tentation, par définition, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Sinon, c'est pas une tentation. Moi, si vous me dites, mange la chaise, je suis pas tenté du tout. C'est-à-dire, je vais pas la manger. Je vais pas me rendre malade. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie. Si vous me dites, mange le framboisier, ah, c'est pas pareil, d'accord? Là, ça devient une tentation. Donc, par définition, une tentation signifie qu'on est attiré. Mais montrez-moi dans la Bible que la tentation est un péché. Jamais. Ce qui est un péché, c'est de succomber à la tentation. C'est de se placer sous l'autorité de la tentation. Donc la tentation elle-même n'est pas un péché. Vous voyez que la contradiction, elle est là aussi. Vous avez un collègue de travail qui vous attire physiquement, bah oui, mais ça c'est la loi chimique, la loi des goûts et des préférences, c'est une tentation, ce n'est pas un péché encore. Par contre, si dans l'organisation des équipes vous faites tout pour être avec lui, vous allez sur un terrain brûlant. Parce que là vous commencez à subir la tentation et à vous priver de l'autorité de Dieu sur votre vie. Et donc la pensée spirituelle s'atténue peu à peu. Donc il faut vivre cette contradiction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une souffrance. C'est de se dire, j'ai envie de quelque chose, mais Seigneur, ta volonté plutôt que la mienne. Lorsque Jésus était à Gethsémané, il a été tenté de ne pas aller à la croix. Qui a envie de souffrir? Qui a envie, alors qu'il a passé l'éternité en communion, on n'a pas idée de ce qu'est l'éternité, mais pendant l'éternité, Jésus a toujours été en communion avec son Père. Ils étaient un. Et là, Jésus savait qu'il allait recevoir la colère du Père à notre place. Bah, qui a envie de ça? Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et alors le diable, il peut arriver en disant, ah, t'es hypocrite, t'as pas vraiment envie. Non, j'ai pas vraiment envie de suivre le Seigneur. Bien sûr que non. Non, j'ai pas envie d'être pieux. Non, j'ai pas envie d'être spirituel. Oui, j'ai envie de rester au lit dimanche matin. Oui, je veux avoir raison dans la chair, dans mon couple. Oui, je veux calomnier mon collègue parce qu'il a fait ci et donc je vais répéter à tout le monde. On est tous comme ça. Mais nous sommes des auditeurs obéissants. Et donc, en obéissant, nous sommes fortifiés. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il a cru, il a été fortifié spirituellement, et il a été fortifié dans sa chair, dans son corps. Et il a pu avoir des enfants. Et vous savez, la conférence que nous avons, à laquelle nous avons assisté, il y a eu des témoignages tout à l'heure, le thème c'était « Prends courage ». Et vous savez, ça a beaucoup été discuté, il y a eu beaucoup de prédications sur le sujet, et ça m'a amené, moi, à cette conclusion, c'est qu'il faut du courage pour marcher dans le monde. Il faut du courage. C'est pas une évidence. Il faut du courage. Et là, j'aimerais qu'on lise Josué chapitre 1, verset 7, où là, c'était, je vous dis, un verset qui était souvent cité durant la conférence. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alors, j'en ai parlé lors du message que j'ai fait à Baltimore, c'est que si le Seigneur me disait que cela, fortifie-toi seulement, je vais la prendre où ma force, si j'en ai pas. Parce que s'il me dit fortifie-toi, ça veut dire que j'en ai besoin, mais comment je vais faire? Et aie bon courage, hein, mais si j'en ai pas, vous donnez le courage. Mais il donne la clé, il donne la réponse, là, il donne le moyen d'être fortifié, d'avoir courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. C'est-à-dire que la force et le courage viennent en agissant selon la parole, pas en étant statique devant la parole. Nous, ce qu'on voudrait, c'est la force et le courage avant d'obéir. Ah ouais, je le sens là. Ah ouais, ouais, là j'ai du courage. Ouais, ouais, super Seigneur, on y va, on y va, on y va. Puis en plus, j'ai bien dormi, je suis bien en forme. Allez, là, je suis prêt à t'obéir. Seigneur, il demande des fois de nous obéir alors qu'on n'a pas de lui obéir, alors qu'on n'a pas de courage, on n'a pas de force. Et des fois, on vient devant Dieu, alors ça peut arriver parfois, hein, je veux dire, c'est possible aussi. Mais des fois, on n'est que dans ce cadre-là. Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force. Et le Seigneur, il dit, bah, lève-toi et marche. Si tu te lèves pas et tu ne marches pas, c'est un peu comme le paralytique. Quand est-ce qu'un paralytique, quand il y a eu les miracles de Jésus, ou les aveugles, quand ils ont retrouvé la vue, mais prenons le cas du paralytique, quand est-ce que le paralytique a été fortifié? Quand il a pris la décision de marcher. Parce que s'il était resté assis, il n'aurait pas vu cette force agir en lui. Il a fallu que, alors qu'il était paralytique, qu'il obéisse et qu'il essaye de se lever. Et en agissant selon la parole de Jésus, parce que Jésus, c'est sa parole aussi, lève-toi et marche, en répondant par la foi positivement à la parole, il a été fortifié. Vous savez, moi je peux avoir 30 et quelques années d'expérience chrétienne. Il y a des fois, Dieu me demande des choses, c'est comme si j'étais un bébé. Ah non, Seigneur, j'y arriverai pas. Ah non, c'est impossible. On est tous pareils. On a tous besoin de Dieu. C'est pas parce qu'on a mangé pendant 40 ans que demain on n'aura pas faim. Et ben c'est la même manière, de la même manière, c'est pas parce qu'on a une vie avec Dieu pendant 40 ans qu'aujourd'hui on est capable par nos propres forces. D'accord? Au contraire, Dieu nous amène à diminuer de plus en plus. La spiritualité, vous savez, ça c'est un point important. C'est qu'on a tendance à penser que être spirituel, c'est ne plus avoir besoin de Dieu. Un peu comme des enfants, c'est « T'as vu papa, j'y suis arrivé tout seul. T'as vu, je marche maintenant, j'ai plus besoin de toi. » C'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est... Il y a eu un film avec... alors attendez... Brad Pitt, vous savez, où il naît un peu comme un vieillard, et plus il grandit, plus il devient un enfant. Ben, la vie chrétienne, c'est ça, en fait. C'est le contraire de la vie naturelle. C'est plus j'avance, moins j'en sais. Quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire qu'on va louer la faiblesse, on va louer la pauvreté. D'une certaine manière, sans entrer dans le misérabilisme, mais on va louer notre mort. On va mourir à nos capacités pour laisser la vie de Dieu agir. Et souvent, les chrétiens pensent que, ah ben ce matin, je vais me lever. Je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais prier une heure, passer les coups de fil, répondre positivement à toutes les agressions extérieures, au boulot ils sont dans la chair, moi je suis... Alors, on va croire qu'on est chrétien, mais en fait on va utiliser un mot d'une religion de l'Est, on va dire que je suis zen. Et donc voilà, on est en contrôle, tu sais. On aimerait tellement vivre comme ça. Mais c'est pas ça. C'est un éternel recommencement. C'est qu'on doit avoir besoin de Dieu. Et quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans ses incapacités. Et ça peut être dans tous les domaines. Vous savez, le piège entre l'évangélisation, on a un expert, ah, je sais comment parler aux gens. Je n'arrêtais pas l'onction. Le Saint-Esprit va peut-être pas vous utiliser. Vous avez peut-être les arguments, vous avez l'expérience, vous connaissez l'argument de l'autre, vous savez quoi répondre, mais vous n'avez peut-être pas la sagesse de Dieu à un instant T. À l'instant T, il vous faut être connecté au Saint-Esprit et marcher par la foi. Et des fois, vous allez peut-être dire la même phrase que ce que vous auriez dit dans la chair, mais parce que vous êtes connecté à Dieu, cette même phrase sera ointe et il y aura, ça va pénétrer l'âme de votre interlocuteur. C'est pareil dans la prière. Et c'est pareil dans la prédication. Seigneur, moi honnêtement, je peux avoir des défauts, mais une des qualités que j'ai concernant la prédication, c'est qu'à chaque fois, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est pas, ça m'a plu, je vais faire du copier-coller, ça c'est intéressant. On peut enseigner, mais la prédication, c'est pas que de l'enseignement. C'est une parole vivante, ce dimanche, 3 juillet, qu'est-ce que Dieu veut à dire à 50 personnes bien précises. C'est ça la prédication. C'est quelque chose qui touche le cœur individuellement des gens. Et c'est comme un régime qui est prévu pour vous. Et l'orateur, le prédicateur, doit cuisiner correctement pour les gens qui ont besoin de tel ou tel régime. Moi je ne le sais pas, je ne connais pas le régime qu'il vous faut, mais le Seigneur le sait. Et je dois, moi, discerner quelle est la volonté de Dieu concernant le message que je dois donner. Comme si c'était au premier jour, comme si c'était la première fois que je prêche. Et ça peut être très facile pour un orateur de s'appuyer sur son expérience, sa connaissance, etc., etc. Non, tout doit être nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Josué ? À la différence de la génération passée 40 ans plus tôt et qui restait dans le désert. C'est que lui savait qu'il y avait des géants, il savait qu'il y avait d'abord des difficultés, il a eu son Jourdain à traverser, Moïse a eu sa mer rouge, lui il avait son Jourdain, et il a cru Dieu et il s'est passé des choses extraordinaires. Il s'est fortifié dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que peu de temps après, ils ont traversé le Jourdain, et après qu'est-ce que Dieu leur demande ? Rappelez-vous que quand ils sont dans le pays de Canaan, qu'est-ce qu'ils sont censés faire ? Combattre. Ils ont commencé par Jéricho, etc. Mais c'est pas la première chose que Dieu leur demande de faire. Mais attendez, là, ça fait 40 ans, vous n'êtes pas circoncis. Donc on revient aux fondamentaux. Circoncision pour tout le monde. Enfin, nous, les hommes. Et donc, ils ont été circoncis. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et les hommes, vous allez me comprendre, si vous faites circoncire, vous n'êtes pas en état de combattre. Donc la logique aurait pu être, attends, quand on était encore dans le désert avant le Jourdain, on va se faire circoncire, on va être soigné pendant 2-3 semaines, on va cicatriser, et après on traverse le Jourdain et on attaque. Non, là ils vont en territoire ennemi, donc ils se mettent en danger, et ils se font circoncire à ce moment-là. Faut ça pas bizarre ? Pourquoi ? Parce que leur protection c'était l'Éternel, c'était pas le même. Et ils ont été gardés pendant cette période-là. Ils ont dû marcher par là. Quoi ? Donc d'un côté, pas envie de se faire circoncire, que ce soit à cause de la souffrance, mais aussi le moment, c'est pas le bon moment. Mais ils l'ont fait par obéissance, et ils ont été fortifiés par la parole de Dieu. Ils s'en sont sortis. Et ça va être comme ça en permanence, et David était fort pour ça. Donc déjà, à ce stade du message, j'aimerais vous dire, n'attendez pas d'être fort et courageux pour obéir. Obéissez pour être fort et courageux. C'est parce que vous obéissez que vous allez avoir le courage et la force de le faire. C'est par la foi. Parce que si vous attendez systématiquement d'être courageux, d'avoir la foi avant, c'est comme si vous demandiez des capacités naturelles en fait. C'est je le ferai si j'ai toutes les munitions. Non, j'y vais les mains nues. Mais c'est Dieu qui me protégera. Et c'est pareil avec, David et Goliath. David, on lui met une armure, il ne sait pas trop comment il va combattre avec ça. Il dit non, je vais y aller tel que je suis, je prends Saint-Pierre, j'y vais. Et puis Goliath, il est terrassé. C'est la force de Dieu qui l'a étendu. Il a été fortifié et il a été courageux parce qu'il a confessé la vérité. Et les apôtres, ça a été pareil, Joseph, ça a été pareil, etc. Et maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin dans cette réflexion de cette contradiction. C'est un passage de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je vais vous lire le contexte, mais je vais m'arrêter sur un verset en particulier, puis après, on arrêtera. 1 Jean 3, versets 18 à 24. L'apôtre Jean dit ceci. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Vous remarquerez là aussi que c'est l'action qui est demandée. C'est pas là, simplement parler. Même pas en paroles et avec la langue, mais en action et en vérité. Si on fait faire un parallèle, le mot parole est à mettre en parallèle avec action. Plutôt que de parler, agissons. Et plutôt que d'avoir la langue qui bouge, ayons la vérité. Vous voyez, c'est ça le point. En d'autres termes, la vérité, elle est dans l'action. Elle n'est pas dans la parole, simplement. Ensuite, il dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. C'est-à-dire que j'obéis par la foi à la vérité, et parce que j'obéis, je suis rassuré devant Dieu. C'est-à-dire que je sais que Dieu est avec moi puisque sa parole me demande de faire certaines choses. Prenons un autre exemple. Imaginons que je vous demande d'aller faire les courses. Vous n'avez pas envie d'y aller. Mais vous y allez quand même. Vous faites les courses. Vous êtes rassuré devant moi. Pourquoi ? Parce que vous avez obéi à ce que vous avez demandé. Ce qui vous rassure, c'est pas d'avoir envie de faire les courses. Vous n'avez pas envie. Mais parce que vous obéissez, vous êtes rassuré devant moi. Or nous, on va être rassuré devant Dieu quand on a envie. Ah, j'ai envie, donc je suis rassuré. Dieu est avec moi parce que j'ai envie. Non, Dieu dit, c'est pas parce que tu as envie que tu dois être rassuré. C'est parce que tu obéis. Parce que tu obéis, tu vas rassurer ton cœur devant Dieu. Vous comprenez un peu le processus. Souvent, on s'enferme dans des mauvaises façons de penser. Ensuite, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Souvent, ce verset, et c'est pas faux, est utile. Mais on le lit souvent à la culpabilité, au péché. C'est-à-dire que si tu te sens coupable, c'est pas grave, Dieu est plus grand que ton cœur. D'accord? Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ça peut être utilisé dans cette sphère-là. Et pourquoi on l'interprète uniquement avec cette partie-là de la vérité? C'est parce que dans le chapitre 1, il est parlé de confesser nos péchés. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc on l'associe à ça. Mais là, dans le contexte, c'est beaucoup plus large. Ça parle de l'amour fraternel. Voilà, on vient de le lire. N'aimons pas en parole, mais en action en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs. Car si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire, j'ai pas envie de faire les choses, je me sens condamné là. Dieu me demande de marcher par la foi, j'ai pas envie. Mon cœur me condamne. Et surtout, mon cœur est opposé à Dieu. Rappelez-vous que l'esprit, la chair est opposée aux choses de l'esprit. Donc, si mon cœur me condamne en disant ce que tu fais n'est pas normal, perdre sa vie, c'est pas normal. Aimer inconditionnellement, c'est pas normal. Pardonner, c'est pas normal. Donner sa dîme, c'est pas normal. Soutenir les missionnaires, c'est pas normal. Perdre sa vie, c'est pas normal. Et donc, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, c'est pas normal. Il nous condamne. Tout comme le diable accuse les frères jour et nuit. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est-à-dire que les pensées qui viennent de la condamnation sont très limitées. Dieu connaît, lui, toutes choses. Et ça me fait penser à un passage très intéressant dans, c'est Jean qui a écrit ça aussi, d'ailleurs c'est dans les évangiles, quand l'apôtre Pierre doit répondre à Jésus qui dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Et Pierre dit « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il connaît ses limitations dans la chair, mais en même temps, il a envie d'aimer le Seigneur. Et donc, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses dans le sens où il ne connaît pas simplement le cœur de Pierre qui est limité, mais il connaît aussi la foi de Pierre et les bénédictions que Pierre a reçues de la part du Seigneur. C'est-à-dire que c'est un croyant qui a été béni de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ Jésus, sur Ephésiens 1. Et donc, cette magnitude de la foi, le Seigneur la connaît. C'est-à-dire que moi, j'ai pas idée du pardon de mes péchés. J'ai pas idée de ce que Dieu a déposé en moi par le Saint-Esprit. J'ai pas idée des bénédictions qui m'attendent. J'ai pas idée de tout ça. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Moi, j'ai pas envie d'obéir, mais je sais qu'il y a tout ça. Et donc, j'obéis dans mon infirmité, dans ma faiblesse. Mais en même temps, tu connais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es mort pour nous. Et là, parce que j'obéis pas à la foi, je trouve le courage et la foi. Et regardez le verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. De quel cœur s'agit-il là? C'est le nouveau cœur, c'est plus le même. Il y a le cœur qui nous condamne, c'est le cœur de chair. Mais après, il y a le cœur de l'esprit qui, lui, nous donne de l'assurance. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons, quel commandement ce matin, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et je peux vous dire une chose, c'est que des fois on ne croit pas en Christ. Bien sûr qu'on croit qu'il est mort pour nous, mais on ne croit pas à la purification des péchés, on ne le ressent pas. On ne croit pas qu'il nous aime, qu'il nous aime. On ne croit pas qu'il est notre sauveur. On ne croit pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne croit pas. Mais si notre cœur nous condamne et condamne toutes ces choses, Dieu est plus grand que notre cœur. Et parce que je sais que Dieu est plus grand que mon cœur, je suis encouragé, fortifié et j'obéis. C'est pour ça qu'après, je peux dire, par des actes pratiques, je vais aimer les uns les autres. Est-ce qu'on a envie de toujours s'aimer les uns les autres? Non. Pourquoi il y a des divisions dans les églises ou dans les couples? Parce que les gens n'ont pas envie de s'aimer. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oui, mais ça, c'est ton cœur qui le dit. Et Dieu dit, mais il faut aimer inconditionnellement. Ah, mon cœur me condamne. Non, mais non, t'as pas le droit d'aimer inconditionnellement. T'as fait trop de mal. Ah, mon cœur me condamne. Mais Dieu est plus grand que mon cœur. Et comme il est plus grand que mon cœur, je vais aimer inconditionnellement. Parce que lui connaît toutes choses. Et il sait que celui qui m'a fait du mal a aussi été lavé de ses péchés. Que celui qui m'a fait du mal a peut-être besoin de l'amour inconditionnel, tout comme moi j'en ai besoin. Et donc mon cœur me condamne, me dit, ne fais pas ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais Dieu est plus grand que mon cœur, et j'obéis selon son cœur. Et quand j'obéis selon son cœur, mon cœur commence à avoir de l'assurance. Pas parce que j'ai envie de faire, mais parce que je sais que je suis dans sa volonté. Et comme je suis dans sa volonté, j'ai du courage et j'ai de la force. Que Dieu obéisse.